Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Extrait de la lettre circulaire, septembre 2009. Que se passe-t-il lors du retour de Christ? En relation avec 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17, une fois encore, quelques paroles de clarification doivent être dites et écrites. Certaines déclarations faites par frère Branham dans sa prédication, l'enlèvement, ont été interprétées à tel point que le cri, signal donné, de 1 Thessaloniciens 4, qui en fait est un cri de commandement, est prétendument présenté comme le message et que le Seigneur serait en processus de descente depuis 1963. Considérons ensemble de plus près le texte de 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17, afin de déterminer à qui est adressé ce cri. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ainsi, il est question de ceux qui sont morts en Christ. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 14. Ici, il s'agit de nouveau de ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 15. À nouveau, il est fait mention de ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 16. Tout ce qui est mentionné dans 1 Thessaloniciens 4 n'a pas lieu pendant une période prolongée sur plusieurs années, mais directement lors du retour de Jésus-Christ, au moment où les morts en Christ ressuscitent et ceux qui vivent en Christ sont transformés. Ces quatre versets cités ci-haut ne font pas allusion à un message qui est prêché aux vivants, mais traitent très clairement du cri, du commandement que le Seigneur adresse lui-même à ceux qui sont morts en Christ, comme il le fit avec Lazare. Il est parlé de ceux qui sont restés vivants en Christ seulement au verset 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Frère Branham avait enseigné de manière scripturaire qu'il y a trois venues de Christ en relation avec l'Église du Nouveau Testament. Il vint premièrement pour racheter son épouse. Il viendra la seconde fois lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. Il reviendra dans le millénium avec son épouse. Croix seulement, du 27 avril 1961. C'est exactement de cette manière que cela s'accomplira. Amen. Tout comme les nombreux autres faux enseignements, les théories sur le retour de Christ sont elles aussi l'œuvre de l'ennemi. En effet, elles sont littéralement des fantaisies qui égarent et qui sont inspirées par des esprits de mensonges. Les prétendues déclarations, difficiles à comprendre, de frère Branham sont en fait expliquées et rendues claires si on continue de lire dans la prédication par ces déclarations ultérieures qui sont faciles à comprendre. Le terme « message » était si important pour frère Branham qu'il a utilisé plus de 4000 fois et comme le message biblique du temps de la fin précédera le retour de Christ, c'est ainsi qu'il retentit comme un cri qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 25, le verset 6. La même chose qui a été dite au sujet du ministère de Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie, Ésaïe 40, le verset 3, Matthieu 3, le verset 3, s'applique encore maintenant. Il y eut un cri, voici l'époux, viens! Dans sa prédication, l'enlèvement, frère Branham s'est directement référé à Matthieu 25 et a dit, d'abord un message retentit, maintenant c'est le temps de nettoyer les lampes, levez-vous et nettoyez vos lampes. Lors du retour de Jésus-Christ, le cri retentira comme un ordre pour tous ceux qui sont morts en Christ et ils ressusciteront instantanément à ce moment-là. Ensuite, ceux qui sont restés vivants en Christ seront enlevés ensemble avec eux sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Verset 17. Tout ce qui est dans les Saintes Écritures est divinement ordonné et trouvera son accomplissement, littéralement, comme cela est promis. Amen. Parce que le puissant événement qui survint le 28 février 1963 est fallacieusement présenté comme le retour du Seigneur, il est donc nécessaire qu'encore une fois quelque chose soit dit au sujet de l'apparition de la nuée. Frère Branham présenta la photo avec la nuée et il dit dans cette prédication différente. Ici, nous voyons le Seigneur en tant que juge apparaissant dans la nuée couleur d'ambre. Il est généralement connu qu'il fut montré à frère Branham dans une vision l'endroit où ce grand événement aurait lieu. Obéissant à l'ordre du Seigneur, il déménagea à Tucson en janvier 1963, comme il me l'avait dit en décembre 1962. À la fin du mois de février, il monta sur la montagne que le Seigneur lui avait montrée, qui est à une distance de plus ou moins 65 km au nord-ouest de Tucson. Là-bas, il arriva effectivement que le Seigneur lui apparut dans la nuée surnaturelle, précisément en tant que juge, comme frère Branham l'a souvent répété. Pour l'Église de Jésus-Christ, cet événement a la même signification que l'apparition du Seigneur dans la colonne de feu et de nuée au temps de Moïse, ou encore comme l'apparition de la gloire de Dieu dans la nuée dans Matthieu 17, le verset 5. Nous devons comprendre que ce n'était pas Moïse, Jean ou frère Branham qui présentaient leur programme, mais c'était et c'est encore Dieu lui-même qui, à plusieurs reprises, se révèle lui-même selon son plan du salut. Celui qui ne parvient pas à reconnaître cela ne peut pas placer correctement l'action surnaturelle de Dieu. Si frère Branham a répété à plusieurs reprises « Ici nous voyons le Seigneur en tant que juge », alors cela a une signification spéciale. En définitive, cette apparition eut lieu dans la période de l'ouverture des sept sceaux. Par l'ouverture des sceaux, le dernier message biblique a été proclamé et l'attention des enfants de Dieu a été une fois encore attirée sur le « Ainsi dit le Seigneur » de la parole. Nous pouvons voir qu'il ne s'agissait pas du retour corporel du Seigneur, que nous attendons toujours, mais qu'il s'agissait de l'apparition surnaturelle dans la nuée en tant que juge suprême pour montrer distinctement que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, 1 Pierre 4, le verset 17, et que dès lors, tout ce qui est dans l'Église de Jésus-Christ doit être placé correctement au bon endroit selon la parole de Dieu. Le juge suprême dit, « La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » En relation avec cette apparition, frère Branham disait, « Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême du ciel et de la terre. Il est Dieu et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu manifesté en forme humaine et appelé Fils de Dieu. » Rendre un service à Dieu, du 27 novembre 1965. La photo de la nuée surnaturelle a la même signification que la photo avec la colonne de feu sur la tête de frère Branham. Ici, nous n'avons pas affaire à l'œuvre d'un homme, mais à l'action surnaturelle de Dieu. La colonne de feu fut photographiée le 20 janvier 1950 à Houston, dans l'État du Texas, par les deux photographes de presse qui sont Messieurs Ayers et Kipperman. Et son authenticité fut confirmée à Washington le 29 janvier 1950 par le docteur George G. Lacey. Frère Branham aurait pu répéter des milliers de fois « Le Seigneur est avec nous de la même manière qu'il fut avec Moïse et Israël dans la colonne de feu. » Cependant, si cela n'avait pas été confirmé et n'était pas devenu visible, tous auraient pu dire « C'est ce qu'il prétend, mais où en est la preuve ? Est-ce vraiment le cas ?» Oui, c'est réellement le cas. Frère Branham aurait également pu répéter des milliers de fois « Le Seigneur m'est apparu dans la nuée surnaturelle. » S'il n'y avait eu aucune preuve, alors les gens auraient eu une excuse. Le 28 février 1963, la nuée surnaturelle fut observée par plusieurs personnes dans un ciel sans nuages. Dr. James M.C. Donald, de l'Université de Tucson, confirma la véracité de sa présence après avoir étudié 82 photos et ensuite il écrivit un article relatant cet événement qui fut publié dans le Science Magazine du 19 avril 1963. Le Life Magazine reprit également dans ses colonnes ce phénomène le 17 mai 1963 et l'intitula « Un mystérieux anneau de nuages à haute altitude ». Ces événements ne furent pas des simples coïncidences. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi et qui a permis que cela arrive. Toute la communauté chrétienne est informée de ce que Dieu a fait dans notre temps, mais seuls les vrais croyants peuvent placer cela correctement dans le plan du salut et reconnaître le message qui, depuis ce temps-là, est le précurseur de la seconde venue de Christ en tant que dernier appel. Voici l'époux vient. Aucune résurrection, aucune transformation et aucun enlèvement n'eurent lieu le 28 février 1963. Ce ne fut pas le retour corporel de Christ lors duquel les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui sont restés vivants en Christ seront changés, enlevés sur des nuées, pour le rencontrer dans les airs. Toutefois, ce fut l'événement le plus important avant le retour de Jésus-Christ afin d'attirer notre attention aux choses que Dieu est en train de faire dans notre temps selon son conseil éternel. Nous réalisons que le Seigneur seul est le juge suprême et qu'il jugera toutes choses en prononçant le verdict final maintenant et au jugement dernier selon sa parole.